Eh bien, l'école du dimanche, les monitrices, les moniteurs ont tous ma sympathie parce que c'est pas facile de travailler avec des enfants, des jeunes. Et on se rappelle qu'on était jeunes aussi. Et que ça faisait la joie de participer, ça faisait la joie de nos parents aussi de nous voir participer à l'école du dimanche, participer à ce spectacle. Et je sais pas en Belgique, mais au Québec, le 25 décembre, c'est vraiment la fête des enfants. C'est vraiment réservé pour les enfants. Et le 31 décembre, c'est pour les adultes. Mais le 25 décembre, eh bien, on prend le temps aussi de célébrer, de remercier le Seigneur pour les enfants qu'il nous a donnés. Et mes parents étaient croyants, pas nécessairement évangéliques, mais se sont convertis à la fin de leur vie, quelques semaines avant de mourir. Et il y avait une tradition chez nous, dans notre famille, qui était la suivante, c'est que le 31 décembre, je viens d'une famille de 8 enfants, et le 31 décembre, eh bien, ma mère, elle me demandait d'aller réveiller mon père ou de faire venir mon père dans la cuisine. Je devais rassembler les 7 autres enfants. Et je demandais à mon père de nous bénir pour l'année qui vient. Et mon père, eh bien, il plaçait la tête sur ses enfants et il priait pour nous tout au long de l'année que Dieu nous protège et que Dieu nous bénisse. Et je pense que c'est une tradition, c'est pas une question de religion, mais je pense que c'est une tradition qui pourrait être importante. La veille, soit le 31 décembre ou le 1er janvier, eh bien, je m'adresse aux enfants, aux aînés, d'aller chercher votre papa, de le faire venir dans le salon ou dans la salle à manger et de lui demander, finalement, quand les enfants sont tous rassemblés, « Papa, veux-tu nous donner ta bénédiction pour l'année? » Et c'est un engagement que le père prend aussi. C'est un engagement que la mère prend à travers son mari, mais c'est un engagement aussi que le père prend de veiller sur ses enfants parce qu'il reconnaît que Dieu veille sur lui, que Dieu veille sur sa famille. Mais en tant que père, eh bien, aussi qu'il est là pour que Dieu puisse bénir sa famille à travers lui. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour nous. On parlait il y a quelques semaines aussi que, vous savez, dans nos milieux chrétiens, souvent, quand on se convertit, on jette l'eau avec le bébé, il y a des traditions qu'on n'accepte pas. Mais il serait bien que les chrétiens, des fois, on puisse prier, pas seulement debout, pas seulement assis, mais qu'on puisse aussi se mettre à genoux pour prier. Je pense que c'est une marque d'humilité devant le Seigneur, devant le roi, comme les mages l'ont fait. Ils se sont prosternés pour adorer, pour louer le Seigneur. Et pourtant, les mages, quel bel enseignement ils nous donnent, c'était des païens. C'était des païens. Et à travers ces païens, Dieu rappelle à son peuple qu'il est un Dieu qui est là pour être adoré, pour être loué. Et une position, la position à genoux, c'est une position que David, dans l'Ancien Testament, prenait régulièrement, même couché à plat ventre, pour adorer et pour louer son Seigneur. Et Dieu, aujourd'hui, se réjouit de voir que son peuple est réuni pour le louer, pour l'adorer, et pour se rappeler aussi ce qu'il a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Dans Luc, chapitre 2, verset 7, il est écrit que Marie enfanta son fils premier-né, qu'elle l'emmailleta, qu'elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et avant de commencer mon message, j'aimerais simplement vous poser une ou deux questions. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de place pour lui. Pas de place pour lui dans aucune auberge à Bethléem. Aujourd'hui, est-ce que Jésus occupe une place dans votre cœur aujourd'hui? S'il occupe une place dans votre cœur, je m'adresse aux croyants maintenant, quelle est la place qu'il occupe? Est-ce qu'il occupe la première place, la place qui lui revient? Ou si, comme à l'époque de Bethléem, eh bien, Jésus n'occupe pas la place qui lui revient, parce qu'il y a autre chose qui vient du monde, qui a pris la place qui lui revient. Et pour ceux qui n'ont jamais accordé cette place à Jésus-Christ, à travers ce message, j'aimerais vous amener à réfléchir que Jésus peut faire un ménage dans nos vies et occuper une place grandiose et amener une paix et une joie. Jésus ne vous donnera pas du plaisir comme le monde le donne, parce que le plaisir, c'est éphémère. Le plaisir, c'est en surface. Mais allez habiter dans votre cœur si vous lui faites cette place pour vous donner une joie et une paix que l'intelligence de l'homme est incapable de comprendre. Une paix et une joie. Et cette semaine, il y a un grand chanteur qui est décédé, quelqu'un de mon époque, Joe Cocker, 70 ans. J'ai écouté deux de ses chansons. Et dans une de ses chansons, « N'oubliez jamais », il se demandait qu'est-ce qui faisait tourner la terre sur elle-même. Pourquoi on est sur la terre? Pourquoi le cœur d'un homme est si désemparé? Et j'espère qu'il a trouvé ses réponses avant de mourir, Joe Cocker. Mais Dieu en Jésus-Christ est venu nous visiter pour donner les réponses à notre cœur. Que vous soyez athée, que vous soyez religieux, que vous soyez, que vous croyez à ce que vous voulez, Dieu a placé dans le cœur d'un homme la pensée de l'éternité. Et la pensée de l'éternité, peu importe ce qu'on croit, ça signifie qu'un jour, rendu un certain âge, l'idée de la mort, elle nous revient. Vous savez, moi, j'ai jamais pensé que je mourrais un jour. En tout cas, ça ne me préoccupait pas jusqu'à l'âge de 55 ans. Et je voyais ces petits jeunes qui viennent le dimanche après dimanche, qui sont là et qui descendent à l'école du dimanche. Et à 55 ans, pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question, est-ce que ces enfants, je les vais marier? L'idée de la mort qui commençait à faire surface dans ma tête. Qu'un Dieu, un jour, Dieu me rappellerait à lui. Et Jésus-Christ nous bénit, Jésus-Christ nous encourage, parce que non seulement il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité. Et je disais la semaine dernière dans un message que les premiers chrétiens ne disaient pas qu'ils croyaient en Jésus-Christ crucifié. Ils disaient qu'ils croyaient en la résurrection des morts. Et j'espère que vous pouvez dire un amen là-dessus cet après-midi. Jésus-Christ, les chrétiens du premier siècle croyaient en la résurrection des morts. Et quand on croit en la résurrection des morts, ça nous ramène à la croix, ça nous ramène à la naissance, mais ça nous ramène aussi qu'un jour Jésus va revenir. Il va revenir chercher les siens. J'espère que c'est votre espérance aujourd'hui dans votre cœur. Non pas que vous gardiez vos yeux fixés à l'horizontale, mais que vous gardiez vos yeux fixés vers le ciel, parce que c'est de là-haut que le Seigneur va venir. Il n'est plus dans son cercueil, il est ressuscité des morts. Et vous savez pourquoi la résurrection des morts, c'est important? Quand on fait de l'évangélisation, qu'on dit aux gens, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort, les gens disent, il n'y a jamais personne qui est revenu. Ah oui? Moi, je leur dis, il y en a une, et c'est Jésus. Vous savez ce que les gens disent? Ah oui, mais lui, c'est pas pareil. Pas pareil, hein? Oui. Et on le met de côté, hein? Mais les chrétiens du premier siècle croyaient en la résurrection des morts. Et j'espère que vous avez placé votre confiance sur cette croix, mais aussi celui qui n'est plus sur cette croix, qui est ressuscité des morts. Et cette croix qui est vide, sans Jésus-Christ, elle nous rassure, elle nous encourage, parce qu'elle confirme que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Dès sa naissance, mes amis, Jésus n'a pas eu de place. Il n'y a pas eu de place pour Jésus à l'auberge de Bethléem, pour accueillir cette femme enceinte qui arrivait d'un long voyage. Marie va donner naissance à Jésus. Et où va-t-elle déposer le Jésus? Dans une petite crèche, dans une crèche, dans une mangeoire. Voilà comment le Fils de l'homme sera accueilli sur la terre. Et comment va-t-il réagir? Comment Dieu va-t-il réagir? Est-ce qu'il va se mettre en colère? Est-ce qu'il va exercer un jugement? Non. Il va envoyer des anges, lesquels vont apparaître à des bergers et leur faire une annonce grandiose. Aujourd'hui, vous aidez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dieu va s'adresser à travers des anges à des bergers, des gens qui sentaient mauvais, des gens qui ne valaient pas plus que des chiens à l'époque que Jésus venait au monde. Des gens, ils étaient rejetés par les gens parce qu'ils vivaient avec les moutons, parce qu'ils couchaient avec les moutons, parce qu'ils ne se lavaient pas souvent. Et Jésus va s'adresser à ces gens. Ouais. Et gloire à Dieu que Dieu s'adresse encore aujourd'hui. Non pas aux plus intelligents de ce monde, mais à ceux qui sont capables de s'humilier et de s'abaisser et reconnaître leurs besoins d'un sauveur. Rapidement, hein, ce n'est pas un message que je vais apporter cet après-midi, mais vraiment une petite méditation. On a déjà eu les enfants, on a eu des chants, mais rapidement, j'ai peut-être 4-5 points que j'aimerais soulever. Les raisons qui ont amené Jésus à naître dans une mangeoire, eh bien, c'est afin de montrer clairement aussi que Dieu s'est humilié pour sa créature. Et aurait-il été convenable qu'un homme qui devait mourir sur une croix puisse être revêtu dès sa naissance d'une robe magnifique comme les rois? Aurait-il été convenable, frères et sœurs, que le Rédempteur qui devait être enseveli dans un tombeau, prêté par quelqu'un, naisse ailleurs que dans une étable et loge ailleurs que dans une vulgaire mangeoire? Ce roi portera pendant sa vie les vêtements d'un paysan et s'associera avec des pêcheurs. et la montagne était souvent le lieu qui lui servait de lit. Il s'est humilié lui-même, nous dit la parole, lorsqu'il a abandonné sa gloire, qu'il a pris la forme d'un serviteur pour être déposé dans une mangeoire. Il a été déposé dans une mangeoire, c'est un deuxième point que j'aimerais soulever, afin que de montrer qu'il serait aussi le roi des pauvres, c'est-à-dire qu'il serait accessible à tout le monde. Et frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu, que le salut soit gratuit. Gratuit! Gratuit! C'est pas merveilleux? On vit dans un monde qui a de la difficulté à donner quelque chose gratuitement. On a tellement travaillé pour ramasser qu'il nous est difficile de donner gratuitement. Mais la parole nous dit qu'on a affaire à un Dieu qui a donné, un Dieu qui prend plaisir à donner. Amen! Essayez d'évaluer le prix que Dieu aurait dû demander à sa créature pour pouvoir être sauvé si le salut n'avait pas été gratuit. Personne n'aurait eu les moyens d'être payé. Personne. Voilà pourquoi, dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il n'est pas descendu qu'une myriade d'anges en disant, « Tassez-vous, moi je suis le roi des rois, je suis le seigneur des seigneurs, je suis le créateur de toutes choses. Tassez-vous, faites-moi de la place, moi j'ai besoin d'être adoré maintenant. Amenez les diamants, amenez l'or, amenez-moi tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir simplement le droit que je porte un regard sur vous. » Non. Il n'est pas venu avant de se faire construire un immense château. Il est venu et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux à Bethléem. Il est venu vraiment avec un cœur rempli d'humilité. Et on reconnaît aussi ses enfants à travers l'humilité qu'ils ont. Parce que cette humilité, ils l'ont reçue de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de place pour eux à Bethléem. Aux yeux du pauvre, les vêtements que porte un roi ne suscitent pas l'affection ou l'attachement, mais un homme qui porte les mêmes vêtements qu'eux suscite la confiance. Frères et sœurs, les ouvriers vont s'attacher et soutenir de tout cœur un dirigeant qui appartient à leur classe sociale. Ils vont lui faire confiance parce qu'ils savent qu'il connaît leur travail, qu'il sympathisera avec eux dans leurs souffrances et qu'il s'intéressera vivement à leurs problèmes. Les grands généraux qui ont su facilement gagner le cœur de leurs soldats, ce sont ceux qui ont partagé leurs souffrances et leurs privations. Ce sont ceux qui ont su s'abaisser à leur niveau en mettant de côté le rang qu'ils occupaient. Le roi des hommes qui est né à Bethléem a partagé pendant son enfance les calamités qui sont communes aux pauvres. Pour ce grand roi de paix, la mangeoire sera son berceau. Ce sera dans une étable qui sera présentée au monde entier, comme étant le prince, de toutes les nations, et qu'il est le Seigneur de tous. Il a été placé dans une mangeoire aussi, et gloire soit rendue à Dieu, afin de faire savoir aux humbles qu'il pouvait venir à lui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh. Et vous savez pourquoi il fait grâce aux humbles? Quel combat de s'humilier devant Dieu. Parce que ça demande de reconnaître qu'on est des pécheurs. Ça me demande de reconnaître qu'on n'est pas nécessairement des si bonnes personnes que ça. Ça demande de reconnaître qu'on est perdu dans nos péchés. Ça nous demande de faire confiance à quelqu'un alors qu'on nous a élevé toute notre vie, à faire confiance en nos propres moyens, en notre propre intelligence, en nos propres capacités. Ouais. Le mot hébreu pour Dieu résiste aux orgueilleux, pour résister, c'est Dieu combat l'orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Extraordinaire. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, il est venu nous parler. Dans l'Ancien Testament, on nous a présenté un Dieu juste, qui juge. Et dans le Nouveau, la parole nous dit qu'il est venu nous faire connaître le Père. Il est venu nous dire comment entrer en relation avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, quel grand sauveur nous avons. Quel sauveur merveilleux je possède, nous dit la parole. Nous dit un des cantiques, pardon. Frères et sœurs, nous tremblerions peut-être ou probablement tous si on nous demandait de nous présenter devant le trône du roi, mais nous serions tous à l'aise de nous approcher d'une mangeoire, parce que nous savons que nous n'avons rien à craindre. Croyez-vous que les gens auraient été disposés, auraient été disposés à étendre des branches de palmier et qu'ils seraient allés au-devant de Jésus en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » si Jésus était entré dans Jérusalem, monté d'une manière majestueuse sur un grand cheval blanc plutôt que sur le dos d'un ânon? Frères et sœurs, celui qui a créé toutes choses, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui tient l'univers dans ses mains, celui dont les noms sont gravés dans ses mains, il s'est abaissé, il s'est amené au même niveau que vous et moi. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des difficultés à pas vous abaisser aux hommes et aux femmes, mais simplement d'essayer de vous mettre au même niveau que les hommes et les femmes? Même en tant que chrétien, il arrive que c'est difficile. Même en tant que chrétien, il arrive que c'est difficile. Et pourtant, celui qui avait le droit sur tout, s'est abaissé. S'est abaissé à notre niveau. Et fait en sorte qu'il se rende accessible à tous et chacun. Et frères et sœurs, de rencontrer Jésus-Christ d'une manière personnelle, ce n'est pas une question de cerveau, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. Dieu, ce n'est pas un tête-à-tête. Il n'est pas venu sur la tête pour avoir un tête-à-tête avec nous. Il est venu sur la tête pour avoir un cœur-à-cœur avec nous. Parce qu'il sait que c'est le cœur qui doit être changé. Amen. Jamais n'y a-t-il eu quelqu'un de plus abordable que Jésus? On n'a jamais vu, comme on le voit si souvent chez les grands de ce monde, des gardes du corps l'accompagnant pour repousser au loin les gens, afin d'éviter qu'ils entrent en contact avec lui. Seuls les disciples, de temps en temps, l'entouraient pour empêcher la foule de l'écraser. Pensez à la femme qui avait eu des pertes de sang depuis 12 ans. Les disciples étaient là pour repousser les gens. Au contraire, le bord de son vêtement traînait suffisamment pour permettre aux plus démunis de le toucher, afin d'être guéri. Et il avait lui-même toujours la main prête pour guérir. Une oreille tendue pour entendre les sons parmi les plus faibles. Et il avait toujours une parole pour réconforter les plus découragés. Pourquoi Jésus est-il né au monde? Es-tu venu au monde dans une mangeoire pour être accessible à tous? Mes amis, notre Seigneur Jésus est né dans une étable qui lui a servi d'autel pour montrer jusqu'à quel point les gens sont libres de venir à lui, et ce, gratuitement. Bienvenue aux gens instruits, et bienvenue aussi aux moins bien nantis. Bienvenue aux honnêtes gens comme aux voleurs et aux prostituées. Il n'y a personne qui a une excuse pour mourir dans le désespoir et périr pour l'éternité. Dieu veut que l'Évangile soit prêché à chaque créature. Il n'exclut personne, et il veut qu'aucun ne périsse, nous dit la parole, parce qu'il veut que tous parviennent au salut. Frères et sœurs, je crois que Jésus a été déposé dans la mangeoire où les bêtes étaient nourries, afin que de montrer que souvent même les hommes qui agissent comme des bêtes, parce qu'ils ont leur cœur endurci, peuvent venir à lui et revivre. Il n'y a aucune créature, aussi basse peut-elle être tombée, que Jésus ne peut pas relever. Elle peut être tombée tellement bas que pour la plupart des gens, elle se dirige droit en enfer. Mais le bras de Dieu n'est jamais trop court, non seulement pour sauver, mais pour atteindre cette personne à travers Jésus-Christ lui-même. Et lorsqu'un pécheur est tombé dans la déchéance la plus totale et qu'il est considéré comme une cause perdue pour la plupart des gens, eh bien, le Seigneur n'a pas le bras trop court pour le relever, pour le consoler, pour l'encourager, pour le réconforter. Le Seigneur, ce n'est pas une thérapie qu'il veut nous donner. Le Seigneur, c'est une conversion à laquelle il veut nous amener. Amen. Ouais. Le Seigneur, il ne veut pas nous amener à contrôler nos défauts, à contrôler nos péchés. Le Seigneur, il veut nous amener à nous en délivrer. Nous délivrer du péché, nous délivrer ce qui nous éloigne de lui. Et nous amener à vivre une paix et une joie que Paul dit que l'homme ne peut pas comprendre, que l'intelligence de l'homme est incapable de comprendre. Et aujourd'hui, eh bien, on célèbre cette naissance de Jésus-Christ parce que c'est le début. C'est le début de quelque chose de tout simplement fantastique, une deuxième alliance que Dieu fait avec sa créature. Il vient lui-même, encore une fois, il vient nous parler, et il vient nous parler d'une vérité importante. Dieu veut que tous parviennent à la repentance et au salut en Jésus-Christ. Il vient nous partager l'amour de Dieu. Il vient nous dire que Dieu n'est pas là, l'a pas envoyé pour condamner le monde, mais que Dieu l'a envoyé pour sauver le monde. Et frères et sœurs, quelle grâce nous avons en Belgique de pouvoir avoir la parole, nous promener en toute liberté avec la parole de Dieu. Alors que l'ancien pasteur ici, Bill Capitano, qui a plus de 60 ans, pendant les 60 les années qu'il est parti, qui a quitté cette église, est devenu missionnaire. Il a parcouru l'Est de l'Europe avec des feuilles de Bible dans ses doublures de manteau. Il y a combien de missionnaires qui ont fait la même chose, se sont fait arrêter. Pourquoi? Pour une page qu'ils avaient cachée dans leur manteau, une Bible, une page de Bible, parce que les gens n'ont pas accès, alors qu'on était dans l'Union soviétique. Et frères et sœurs, on a les versions qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait de la parole que Dieu nous a laissée? C'est un trésor. C'est un trésor. Ouais. On entend jour après jour, on peut entendre Dieu nous parler à travers sa parole. Alors que dans des pays, il y a des gens qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Non seulement ils n'ont pas accès à la parole de Dieu, ils ne l'ont pas encore reçue dans leur version. Et les gens sont désespérés. Désespérés. Dieu a réponse à tout, frères et sœurs. Ce Jésus qui se trouve dans cet état est le seul capable de redonner de l'espoir à quelqu'un qui est désespéré et de redonner la vie à quelqu'un qui était mort spirituellement. S'il y a quelqu'un dans ce lieu cet après-midi qui se sent non seulement rejeté par la société, mais qui ne s'accepte pas lui-même, mon maître qui se trouve à l'étable avec les bêtes se présente comme étant le seul capable de sauver le plus ignoble parmi les ignobles et accepter la pire des créatures même maintenant. Il suffit de croire en lui et il fera de vous une nouvelle créature. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de vous amener à devenir une nouvelle créature? Est-ce que vous êtes capable? Moi, ça fait 32 ans que je suis capable de dire que l'ancien Jacques Hudon, il est mort. Il est mort. Et maintenant, vous avez devant vous le nouveau Jacques Hudon, mort, crucifié avec Jésus-Christ, ressuscité en lui. Est capable de vous partager l'amour que Jésus a manifesté dans sa vie. Et non seulement l'amour qu'il a manifesté dans sa vie, mais aussi sa miséricorde, son pardon qu'il m'accorde jour après jour. Et aussi l'espoir qu'il me donne. L'espoir qu'il me donne de savoir qu'un jour il viendra me chercher. L'espoir qu'il me donne de savoir que la mort, ce n'est pas la fin de tout, mais le début d'une nouvelle vie avec lui, dans ce qu'il est en train de me préparer là-haut. Frères et sœurs, Jésus, c'est pas juste un bébé. Jésus, c'est pas juste quelqu'un qui est mort sur une croix il y a 2000 ans. Jésus, il est vivant. Et j'espère qu'il vit dans vos vies aujourd'hui. Et j'espère qu'il vit tellement dans vos vies que ça déborde de vos cœurs et que vous voulez le communiquer aux autres qui sont morts spirituellement. Quand on aura fait cette rencontre avec Jésus-Christ, on réalise qu'à l'extérieur, quand on rencontre des gens qui ont des grands sourires, ça n'indique pas nécessairement ce qu'ils vivent dans leur cœur. Lorsque j'étais policier, celui qui était le plus drôle dans notre poste de police, qui nous faisait rire à mourir, eh bien, on s'est aperçu un jour que c'était le plus malheureux de tous les hommes. Ouais. Un jour, il a bu 6 canettes de bière, il a pris son arme de service, il est allé s'asseoir sur la pierre, tomba de son père et s'est tiré. C'était le gars qui avait le plus beau sourire dans notre poste de police. C'était le gars qui savait amuser tout le monde, mais dont le cœur était triste à mourir. Frères et sœurs, on est des bénéficiaires de la grâce de Dieu. On est des ambassadeurs de Jésus-Christ. C'est pas extraordinaire? Il n'est pas monté en haut en nous laissant rien. Et ça fait partie du message de Noël aussi. Il fait de vous, il fait de moi des ambassadeurs. Waouh! Hey, je suis un enfant de Dieu, je suis un ambassadeur, je suis un représentant, je suis un héritier. Wow! En Jésus-Christ! Et tout ce que Dieu a donné à Jésus, il me l'a donné à moi, je suis co-héritier. Et rappelez-vous, là, pour les enfants de Dieu, je parle, Dieu a tout donné à Jésus. Vous êtes co-héritier, il vous donne tout avec lui. Que le Seigneur puisse nous faire voir ce qu'il y a à l'extérieur du monde, comme Paul le disait, comme étant de la boue. Comme étant de la boue, par rapport à ce que Jésus est en train de nous préparer au ciel. Ah! Ah! Tu t'amènes à ça? Le combat spirituel, il est là, frères et sœurs, nous amène à garder nos yeux sur l'horizontal, sur tout ce que le monde nous offre, les lumières, les flashs, les films, les ci, les ça, et nous faire oublier que notre bonheur, il se trouve en haut. Pas sur des biens, sur une personne, la personne de Jésus. Ouais. Pas un Jésus qui est mort, un Jésus qui est ressuscité. Frères et sœurs, suite au recensement décrété par Auguste César, les gens arrivaient de Bethléem en grand nombre. Ils étaient tellement occupés, je termine avec ça, ils étaient tellement occupés à se trouver une place pour se loger, pour se mettre à l'abri des dangers de toutes sortes, que Luc écrit qu'il n'y avait pas de place pour, pas pour Jésus, pour eux, nous dit le texte biblique, pour Jésus, pour Joseph, pour Marie. Frères et sœurs, on vit dans un monde, et à tous les siècles, c'est la même histoire, le monde n'a pas de place pour Jésus. Mais pour eux, ça veut dire que le monde n'a pas de place aussi pour les chrétiens. Et si vous vivez dans le monde, frères et sœurs, cet après-midi, eh bien, vous n'êtes pas à votre place, parce que ce n'est pas la place d'un chrétien. Et si vous vivez de façon à vous faire accepter du monde, vous ne serez jamais accepté du monde, parce qu'un chrétien n'a pas sa place dans le monde. Le texte biblique nous le dit ici. Ils sont arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux. Pas pour Jésus, pour eux. Frères et sœurs, notre place est avec le Seigneur. Notre place est dans le royaume de Dieu. Il y a deux royaumes. Il y a l'Église qui est un royaume en parallèle avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais notre place est avec l'Église. Le monde va passer. Mais la parole, elle demeurera toujours, éternellement, nous dit Jésus. Et l'Église, elle va rester. Elle va rester, l'Église. On ne rentrera pas dans des doctrines théologiques, mais l'Église, elle va rester. Et gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, on célèbre la naissance. Dans quelques mois, on va parler de sa mort, de sa résurrection. Mais on devrait prendre au moins dimanche pour consacrer notre temps aussi au retour de Jésus-Christ et à tout ce qui attend les saints en Jésus-Christ. Il n'y a pas de place pour les chrétiens dans ce monde parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas la même vision, parce qu'on n'a pas la même espérance. Et j'espère que c'est votre cas aujourd'hui dans cette salle. J'espère que vous n'avez pas cette espérance que les gens du monde ont. Sinon, vous devez être sur les médicaments, quoi. 70% plus de médicaments que les gens prennent depuis 20 ans. 70% de tranquillisants. Et moi, si j'étais un enfant du monde, je me serais drogué aux médicaments. Il n'y a rien de bon dans le monde. Vous parlez avec les vieux, là. Guy, je ne sais pas s'il est ici aujourd'hui. Il a connu la guerre, la dernière guerre mondiale. Alors je dis, Guy, comment ça va? Ça sent la guerre, ça sent la guerre. Vous parlez avec les vieux, ça sent la guerre, ça sent la guerre. C'est stressant, ça. C'est suffisant pour que les gens prennent des médicaments. Ouais. Mais peu importe ce qui se passe autour de nous, la parole nous dit, il est là, il est présent. Il est présent. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus. Prenez courage, car je serai avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Même s'il est monté, il habite en nous. Quel message encourageant! Quel message encourageant, frères et sœurs! Alors, encore une fois, je termine ce message en vous posant la question, quelle place occupe Jésus dans votre vie cet après-midi? Fermez les yeux. On ne fera pas d'appel, on va simplement laisser le Saint-Esprit visiter nos cœurs, travailler nos cœurs s'il le faut. J'ai pas de leçon à donner à personne. J'ai pas de leçon à donner à personne. Le message, le premier à qui ça s'adresse, c'est à celui qui le prêche. Et si je mettais pas en pratique ce que je prêche, je le prêcherais pas. Mais le Seigneur, c'est des questions que je me suis posées avant de vous les poser. Et la première question qu'on pourrait se poser cet après-midi, quelle est la place que Jésus occupe dans ma vie? Quelle est la place? Et s'il n'occupe pas la première place, la place qui lui revient, là où vous êtes, pas à haute voix, demandez pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, en 2014, t'as pas pris la place. Je t'ai pas laissé la place qui te revient, Seigneur, parce que j'ai laissé la place à d'autres choses d'entrer dans ma vie qui ne t'appartiennent pas, qui ne viennent pas de toi. Et Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour cette année 2014 qui a été comme des montagnes russes. Mais Seigneur, 2015 se présente devant moi et je voudrais, Seigneur, te prier dans ta grâce, Seigneur, d'intervenir dans ma vie, afin que je sois un ambassadeur, Seigneur, auquel tu seras fier, dans lequel, Seigneur, tu pourras parler à travers moi, dans lequel, Seigneur, tu pourras convaincre les gens, Seigneur, que tu es un Dieu merveilleux, que Jésus est venu non pas pour juger, pour condamner, mais pour sauver. Seigneur, fais de moi un proclamateur de la bonne nouvelle. Il y a peut-être des gens dans cette salle aujourd'hui, pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés. Il y a peut-être des gens dans cette salle que le monde occupe toute la place dans leur cœur parce que Jésus n'est jamais venu les visiter. Peut-être que vous n'avez jamais accepté que Jésus vous visite. Mais cet après-midi, il est là, il frappe à votre porte. Il frappe. Il frappe. Et cette porte, c'est une drôle de porte, la porte du cœur, parce que la poignée, elle est à l'intérieur. Cela signifie que Jésus ne vous forcera jamais la porte de votre cœur pour y entrer. Il frappe. Il frappe. Il frappe à travers le message que vous avez entendu cet après-midi. Et il dit, laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer pour que je puisse vivre avec toi. Laisse-moi entrer pour que je puisse vivre avec toi. Pour qu'on puisse manger ensemble, pour qu'on puisse partager les choses au quotidien ensemble. Et la parole nous dit que celui qui ouvre la porte, que celui qui le reçoit, eh bien, certains ont cru en lui, nous dit Jean, l'évangile de Jean. Et que ceux qui ont cru en lui, qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, la permission, l'autorisation, le privilège de devenir des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Encore aujourd'hui, nous pouvons recevoir Jésus-Christ. Là où vous êtes cet après-midi, vous pouvez recevoir Jésus-Christ. Je ne ferai pas d'appel cet après-midi. C'est Noël, mais ça peut être Noël pour vous, le plus beau cadeau aussi que vous avez jamais eu dans votre vie. Recevoir la personne de Jésus-Christ. Recevoir la personne de Jésus-Christ par la foi. Mes amis, pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, savez-vous que nous serons jugés par Dieu sur un seul critère? Quand l'Évangile nous a été présenté, avons-nous cru au Seigneur Jésus-Christ ou l'avons-nous refusé? Mes amis, notre Seigneur Jésus est né dans une étable qui lui servit d'autel pour montrer jusqu'à quel point les gens sont libres de venir à lui. Et peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, je tiens simplement à vous rassurer cet après-midi, il n'y a aucun péché que vous avez commis que Dieu ne peut pas vous pardonner. Aucun péché. Et là où vous êtes cet après-midi, si vous voulez faire ce pas de foi, si entre vous et Seigneur, dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je suis perdu. Je reconnais, Seigneur, que tu es un Dieu gracieux qui est venu sur cette terre pour me sauver, pour m'épargner du jugement à venir. Seigneur, tu m'as sauvé parce que c'est Jésus qui a été jugé à ma place sur la croix, je le reconnais. L'enfer que je méritais de vivre pour l'éternité, il l'a vécu sur la croix. Et Seigneur, à travers Jésus-Christ, à travers le sang qui a coulé sur la croix, je reconnais que c'est seulement à travers ce sacrifice que je peux recevoir le pardon de mes péchés. Le pardon de mes péchés. Vous savez, c'est quoi le pardon de mes péchés? C'est d'enlever tout sentiment de culpabilité sur tout être humain. Oui. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Et Seigneur, je t'invite. Je te reçois comme la parole dit. Je te reçois dans mon cœur. Fais un nettoyage, Seigneur. Tu connais ma vie depuis que je suis venu au monde jusqu'à maintenant. Et Seigneur, s'il fallait qu'on affiche sur cet écran tous les péchés que j'ai commis depuis que je suis au monde, Seigneur, je serais rouge comme une tomate, Seigneur. J'aurais honte de moi. Parce qu'il y a des péchés que je suis tout seul à connaître et que toi, tu connais. Et dans ta grâce, Seigneur, je te demande de les effacer. De les effacer. Comme Isaïe dit, effacer. Effacer mes péchés. Et fais de moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Une nouvelle personne. Seigneur, un nouveau départ. S'il y a des gens dans cette salle qui ont l'impression d'avoir perdu leur vie, gâché votre vie, Dieu vous offre la possibilité de recommencer une nouvelle vie cet après-midi. Une nouvelle vie en Jésus-Christ, un nouveau départ, un cœur flambant neuf, un nouveau cœur. Pas qu'il transforme votre cœur, il va vous en donner un autre. Quelle grâce Dieu nous fait! Et en terminant dans votre prière cet après-midi, bien dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur pour recevoir le pardon de mes péchés, mais aussi comme mon Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu prennes ma vie en main et que tu la diriges. Et tu sais de quoi j'ai besoin d'être libéré, Seigneur? Viens nettoyer, continue à faire un ménage dans ma vie pour que je puisse être un adorateur en esprit, en vérité, pour que je puisse te louer avec cette liberté que tu donnes à tous tes enfants. Frères et sœurs, lorsque le messager de la miséricorde et de l'amour de Dieu était dans ce monde, il se demandait à quelle auberge il pouvait descendre pour pouvoir passer la nuit et se reposer. Il savait que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais il dit que le Fils de l'homme n'avait pas aucun endroit où poser la tête. Dès sa naissance et jusqu'à sa mort, on n'a pas su lui trouver une place pour l'accueillir jusqu'à ce qu'il arrive. Vous savez ce que je vois comme... Et je termine, hein, je veux pas m'éterniser, je termine avec ça. Vous savez, ils ont probablement marché à Jérusalem, à Bethléem, ils ont vu auberge du petit bonheur, auberge il fait bon vivre, auberge de ci, auberge de ça. Mais lorsque le Seigneur Jésus se promène et qu'il voit comme non l'auberge un cœur contrit et brisé, c'est là que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dit, je serai heureux d'y rester. car je sais par expérience que j'y serai le bienvenu et que je n'y serai jamais méprisé. Un cœur contrit, un cœur brisé. Voilà l'auberge, voilà le cœur où Jésus prend plaisir à venir y habiter. Bienvenue aux gens instruits, bienvenue aux gens bien élevés, comme aux moins bienvenus, nantis. Bienvenue aux hommes honnêtes, comme aux voleurs et aux prostituées. Il n'y a aucune personne, je le répète, qui a une excuse pour mourir dans le désespoir et périr pour l'éternité. Il suffit de croire en celui que Dieu a envoyé. Car quiconque croit en lui et reçoit le pardon de ses péchés a la vie éternelle. Vous dites amen à ça?